Ce très beau livre sur la philosophie de la politesse est une illustration de ce que son auteur lui-même appelle la politesse de la philosophie. Il fallait être un grand historien des idées philosophiques et de leur environnement historique pour redonner cette place à la thématique de la politesse parmi les questions centrales de la philosophie des Lumières. Rien n'est en effet plus difficile en histoire des idées que de proposer un tableau d'ensemble où les problèmes sont bien posés parce que les choses ont été ramenées à leur juste proportion. Il est plus simple, par exemple, de dresser un portrait des Lumières sous leur jour le plus radical. Le travail a été fait de longue date et il se présente désormais dans la littérature anglo-américaine sous le jour, au total assez peu nouveau, du thème du Radical Enlightenment. Il fallait au contraire toute la subtilité de Philippe Reynaud pour, j'allais dire, déradicaliser, retirer de leur radicalité aux Lumières. Et la prise en compte de la thématique de la politesse, très délicate à bien des égards, et très réussie dans ce livre, permet de le faire tout à fait remarquablement. J'ai pensé en vous lisant, Philippe, au propos de Marianne, dans le roman éponyme de Marivaux. À propos de la sœur du curé qui l'a recueillie et élevée, elle dit la chose suivante. Ordinairement, qui dit nièce ou sœur de curé de village dit quelque chose de bien grossier et d'approchant d'une paysanne, mais cette fille-ci n'était pas de même, c'était une personne pleine de raison et de politesse qui joignait à cela beaucoup de vertus. Eh bien, les Lumières, c'est dans votre livre aussi ce projet de réconcilier raison et politesse. Et c'est un mariage dont on sent qu'il aura pour horizon, comme le voit Emmanuel Kant, une certaine sorte de vertu. La politesse s'opère en effet dans le livre, non seulement comme un thème à part entière, mais aussi comme un révélateur. Philippe Reynaud nous le montre comme un marqueur très pertinent des mutations d'une question dominante léguée par le XVIIe siècle, au moins, qui est celle de la sociabilité. Penser la politesse permet de replacer la sociabilité dans un réseau de relations conceptuelles problématique en particulier avec des idées comme celle de perfectibilité et de civilisation. Le livre nous montre comment cette question fait partie de celle au moyen de laquelle la philosophie du XVIIIe siècle ouvre la voie à une déclinaison des grandes questions de la pensée du XVIIe siècle en des termes qui anticipent sur la future gamme des sciences sociales du XIXe siècle. Un problème anthropologique, un problème de géographie humaine et bien sûr un problème sociologique. Alors, j'aurais tendance à dire que le livre nous montre comment politesse et civilité jouent leur rôle dans les efforts visant, de la part des grands esprits du siècle, à construire quelque chose comme une science civile à l'usage des modernes. Cette science civile, elle peut se concevoir et elle a pu se concevoir sur un mode radical, par exemple la régénération révolutionnaire ou par exemple les sciences de la législation hyper-rationaliste, mais elle a pu aussi être comprise dans un sens plus modéré et plus proche de la scientia civilis des classiques. Cette dernière consistait avant tout dans un usage politique de la rhétorique. La science civile moderne commence dans les salons, dans la conversation policée. Mais Philippe Reynaud nous montre bien comment le projet des Lumières était à même d'intégrer certains aspects de la société passée en les reprenant en quelque sorte à son compte. Qualité aristocratique, la politesse pouvait ainsi être mise au service d'un projet de transformation de la société qui allait dans le sens, du moins c'est comme cela que je vous ai lu, d'une appréhension modérée des idéaux modernisateurs en cours d'implantation dans la politique du XVIIIe siècle. Alors, à titre de discussion du livre, je voudrais moi aussi en quelque sorte relancer deux conversations que Philippe Reynaud a bien voulu engager avec moi au cours de la rédaction de son livre. Et je dis d'avance que c'est lui qui a gagné la partie de tennis ou la partie d'échecs et que je ne fais ici que rappeler les raisons pour lesquelles j'avais tort. Au fond, ce que je serais tenté de dire, c'est que le livre de Philippe Reynaud nous éclaire sur le projet des Lumières en sa qualité de projet et le recaractérise et le requalifie adéquatement, disons, dans les projections des auteurs les plus significatifs. D'un autre côté, le propre même de la modernité, c'est d'être clivante, et on voit assez bien comment, d'une part, les sociétés ont connu une tension entre cette aspiration à la politesse et puis d'autres forces transformatrices, et puis d'autre part, comment cette tension, elle réapparaît et elle structure dynamiquement la pensée de ces auteurs les plus intéressants avec lesquels vous entrez vous-même en discussion. On le voit dans les tensions entre une dimension de radicalité qui prend la forme chez Rousseau de la sincérité, qui prend la forme chez Kant de l'impératif de véracité, et puis d'autre part une dimension, disons, méliorative qui pouvait passer par l'acceptation ou par la défense de la politesse. Alors au fond, ça me donne le moyen d'engager deux de ces discussions ou de vous reposer ces deux questions que je m'étais posées un petit peu plus tôt. En prenant comme modèle de société l'Angleterre et comme modèle de penseur travaillé par ce problème, Kant. Pour ce qui est de l'Angleterre, le livre nous présente assez fortement, en particulier à travers Hume, un pays qui est presque un contre-modèle. Elle n'accède pas à la haute civilité, dont le modèle serait français. Elle tendrait même à s'en éloigner en proportion de ce qu'elle avancerait plus fermement que la France dans la direction de la modernité. Plus on est moderne, moins on est poli, en quelque sorte, ou policé. La réaction que ça m'inspire, et qui ne cherche nullement à contredire tout ce que dit d'excellent, voire de parfait, Philippe Reynaud à ce sujet-là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que les Anglais, d'après la Glorieuse Révolution, se sont compris eux-mêmes comme porteurs d'une civilisation de la politesse. Pour reprendre le mot connu du grand juriste anglais du XVIIIe siècle, William Blackstone, les Anglais du XVIIIe siècle se perçoivent comme un peuple policé et commerçant, polite and commercial people. Ils sont commercial, mais ils sont aussi polite. Cette politesse réclamée, revendiquée, elle est au cœur du projet même politique dont Whig est, enfin, au sujet duquel Hume se situe un petit peu sur les marges, sans être extérieur, parce que c'est impossible d'y être extérieur, c'est-à-dire du whiggisme. Le projet même du whiggisme après 1689, c'est de mettre fin à la guerre civile. C'est de faire cesser les guerres de religion et les conflits politiques du XVIIe siècle. Pour accomplir ce projet, il y a une dimension culturelle qui est une dimension pacificatrice et, j'allais dire, de civilisation de soi-même. Introduire une conversation policée, des mœurs plus douces, s'imposer de ce point de vue-là dans une société où devait désormais coexister une aristocratie qui est une aristocratie ouverte mais gouvernante, ou gouvernante mais ouverte, et puis un camp républicain qui avait à la fois marqué beaucoup de points et perdu la partie. Hein, peut-être en raison même de la culture puritaine et hostile à la politesse et hostile à ce raffinement des mœurs, culture puritaine qui avait inspiré le républicanisme dans ses commencements. Au fond, quand Montesquieu dit à peu de choses près que l'Angleterre est la meilleure république européenne, il dit que le républicanisme a gagné en perdant, le républicanisme, pardon, a gagné en perdant, et qu'il s'est imposé politiquement en étant repris par une oligarchie gouvernante qui a des aspirations policées très, très, très caractérisées. Et la politesse est à ce moment-là une des clés de la société anglaise. On le voit dans la mise en œuvre d'un code assez précis de manière sociale, dans l'intérêt pour les modes, pour se fabriquer, comme le fait Walpole, des grandes maisons qui ne sont cependant pas véritablement des châteaux, dans les portraits de Gainsborough, dans la poésie de Pope, dans les écrits de Samuel Johnson, etc., etc. Alors, ce projet n'est pas entièrement un succès, mais il n'est pas étranger non plus à la sorte de proposition sociale et politique que formule à ce moment-là la société britannique. Et donc, il est probable que, sans en rien contredire ce que vous en dites dans votre livre, cette chose-là doit être placée dans une sorte de note de bas de page, me semble-t-il, virtuelle. Le résultat, c'est que désormais, lorsque nous, Français, nous allons en Angleterre, nous avons en général tendance à les trouver moins polis que nous, mais plutôt mieux élevés. Alors, deuxième point, c'est effectivement la discussion sur Kant. Alors, j'ai conscience ici de m'aventurer en terrain miné, parce que je ne suis pas philosophe de profession, qu'il est notoirement difficile de parler de Kant pour des raisons qu'a évoquées Philippe Delara, et certainement particulièrement périlleux d'en parler face à Philippe Reynaud. Alors, ce que je vais dire vont peut-être paraître les propos d'un simplet, et qui sait, d'un simplet empirico-transcendantal, on peut rêver. J'ai trouvé le chapitre sur Kant très impressionnant, notamment dans la manière dont Philippe Reynaud relie la question de la politesse et l'histoire de la transformation des idées morales de Kant. Ma voisine vient d'en parler au carrefour des positions de Rousseau et des empiristes. Je suis, à vrai dire, là encore, tout à fait convaincu et vaincu par sa réhabilitation du statut de la politesse chez Kant. J'ai été en particulier très persuadé par les développements de Philippe sur la belle non-vérité, qui me semble déployer quelque chose comme une phénoménologie du social, qui est compris par Kant comme un lieu où les apparences ne sont pas nécessairement trompeuses et peuvent jouer un rôle un petit peu comparable à celui du caractère d'extériorité du droit dans la doctrine du droit. C'est-à-dire que, de même que dans la doctrine du droit, le droit ne réalise sa finalité qu'en régissant les actions extérieures et en ne pouvant pas rentrer dans la sphère de la conscience, de même, on pourrait comprendre la politesse comme un gouvernement des apparences nécessaires, qui joue le même rôle à bien des égards, et qu'il joue même peut-être un petit peu mieux parce que, en fait, elles peuvent fonctionner comme une sorte de préparation à la vraie moralité. Kant le dit assez explicitement dans ses écrits sur l'éducation. La politesse est même de ce point de vue plus efficace que le droit, précisément parce qu'elle peut tout de même rentrer dans la sphère de l'intériorité à laquelle le droit n'a pas accès. Elle seule, de ce point de vue, peut créer ce que Kant appelle des dispositions intérieures favorables à la moralité. Au fond, de ce point de vue-là, la politesse est alors, comme le droit, un des moyens de satisfaire à l'impératif kantien de sortie de l'état de nature. De ce point de vue-là, je trouve tout à fait intéressant de présenter un Kant, si je puis dire, d'un seul tenant, c'est-à-dire de lire en même temps les trois critiques, le projet criticiste et puis l'anthropologie. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec ma voisine que la lecture de l'anthropologie de Philippe Reynaud certainement restera au sein de ce livre comme un des chapitres les plus intéressants. Maintenant, ce qui m'avait conduit à interroger, si je puis dire, Philippe Reynaud de ce point de vue-là, c'était précisément, je dirais, cette question de l'unité de l'œuvre de Kant. Parce que, tout en me ralliant ultimement, je ne me ralliais pas néanmoins sans un petit combat qui était que il me semblait que le Kant qui pose les conditions de possibilité d'une raison pratique ne peut pas tellement tout de même concéder un rôle très important à la politesse, pour ne pas dire qu'il y a tout de même une sphère de situation assez significative où il est permis de la considérer comme incompatible avec le devoir. Alors il est vrai que le Kant de l'anthropologie est peut-être conduit à voir les choses autrement, comme vous le démontrez admirablement, et pour des raisons qui ont certainement des affinités avec sa philosophie de l'histoire. Est-ce qu'au fond, là comme ailleurs, il ne restera pas quand même un résidu qui ressemble fort au gouffre dont parle la critique de la faculté de juger entre le domaine de la nature et le domaine de la liberté? C'est peut-être quand même pour cela que Kant emploie assez souvent des formules assez réservées vis-à-vis de la politesse, comme quand il dit par exemple, sinon meilleur moralement, du moins plus civilisé. Et des formules qui donnent à penser que la politesse peine à sortir totalement du domaine de la prudence pour entrer de plein pied dans le domaine de la moralité. Il est intéressant de ce point de vue de remarquer, à titre d'illustration, qu'il peut y avoir pour Kant des exemples de politesse. Il dit par exemple, nous affectons la politesse et nous donnons à ce sujet un bon exemple, alors que les exemples sont totalement inopérants dans le domaine de la moralité. C'est aussi un petit peu dans cette direction-là que me semblent aller les réflexions sur la politesse dans les écrits sur l'éducation. J'ai l'impression qu'elle est plus éducative, justement, que participant au résultat final qui est, disons, la volonté bonne, si vous voulez. Alors, la réponse à ces remarques de ma part, elle est dans le livre, et elle peut prendre une forme qui est à peu près la suivante. Il ne faut pas exagérer la rupture entre la philosophie pratique et puis la philosophie de l'histoire chez Kant. La politesse ne serait incompatible avec le devoir que si le rigorisme kantien était un ascétisme, ou si l'impératif assez rhétorique dans le jargon kantien du bonheur, contredisait l'impératif catégorique. Or, Philippe Reynaud nous dit tout à fait clairement que ça n'est pas du tout nécessairement le cas. Ainsi, la politesse n'implique pas le mensonge. Quand on met une formule de politesse à la fin d'un courrier, ça ne veut pas du tout dire qu'on croit ce qu'on dit, ça veut dire qu'on cherche à ne pas désobliger. J'en disconviens pas, mais au fond, se pose effectivement de ce point de vue-là une question que j'aurais un petit peu tendance à peut-être à globaliser pour l'intérêt de la discussion et effectivement à poser comme une question de méthodologie de l'histoire des idées. J'ai dit au début qu'à mon sens, le mérite immense, et qui, si je puis dire, n'est pas donné à grand monde, de replacer les choses correctement dans l'histoire des Lumières, qui est celui de ce livre, c'est de bien faire apparaître des problèmes de projet des auteurs, et des problèmes de projet dans une situation historique donnée qui était la leur, c'est-à-dire vous nous montrez ce que veut faire Kant de manière complète, comment est-ce que Hume voit les choses de manière fine, précise et globale, et vous nous montrez qu'il n'y a pas d'antipathie entre les Lumières et la politesse. Certainement, et je le répète, j'essaye ici de discuter, de problématiser, mais ça me semble déjà un acquis absolument immense. Avec l'exemple de Kant, on voit quand même comment il y a eu un travail de l'œuvre. Et comment ce travail de l'œuvre finit par produire une sorte de traitement objectif, ou disons de... peut-être pas de kantisme de tous les jours, mais de kantisme de l'après-Kant, de kantisme à travers l'histoire de l'œuvre kantienne et de ses lectures, où on peut se demander tout de même si ce qui n'a pas prévalu, c'est la scission contre l'unité de l'œuvre totale. C'est-à-dire si, au fond, il n'y a pas eu tout de même deux trajectoires. La trajectoire des trois critiques et disons de ce qu'on a appelé parfois cette grande grammaire du devoir chez Kant, et puis la trajectoire de l'anthropologie, des écrits sur l'histoire et des réflexions de Kant sur la civilisation. Et de ce point de vue-là, je m'interroge tout de même, je le répète en lecteur pas professionnel de Kant, si ce qui n'a pas prévalu n'est tout de même pas la scission, et si au fond, en gros, ce n'est pas la philosophie pratique, et donc un certain désaveu de la problématique de la politesse, dans une interprétation pour le coup rigoriste, qui a, de la part de Kant, imprégné décisivement la psyché moderne. Stendhal, j'ai pas retrouvé la citation, mais un des écrits autobiographiques, je crois que c'est dans le journal, mais je veux pas m'engager, va visiter un appartement moderne de son temps, et il voit bien que les murs sont bas, qu'on peut pas accrocher des grands tableaux, et il ressort désespéré en disant l'époque de la peinture est finie. Bah, au fond, l'époque de la politesse aussi. On peut le regretter, on peut continuer à vivre pareil et à reproduire un certain nombre de choses. Ça peut être une tactique d'existence et même plutôt agréable, mais au fond, c'est un petit peu comme ça quand même. Je termine comme j'ai commencé avec la malheureuse Marianne, dont on ne sait jamais comment elle finit, on sait très bien, puisque ayant été élue à l'Académie française, Marivaux n'a pas jugé utile de terminer le roman. Marianne dit célèbrement « Il faut que la terre soit un séjour bien étranger pour la vertu, car elle ne fait qu'y souffrir. » Eh bien, remplacez vertu par politesse, et vous avez un petit peu le sort de ce concept dans le moment moderne. C'est-à-dire que l'histoire philosophique de la politesse est aussi ultimement une histoire de la défaite de la politesse. Il aura fallu, et c'est un mérite à mes yeux tout à fait immense, le livre que Philippe Reynaud nous a donné pour comprendre que c'était contingent, quand du moins que ce n'était nullement acquis d'avance, qu'il n'y avait pas de nécessité à cette défaite, ou du moins à ce déclin, en nous montrant qu'une pensée de la politesse était présente chez les plus grands penseurs et qu'elle était partie intégrante et cohérente de leur vision. Marianne, toujours l'héroïne de Marivaux, disait d'elle-même, comme on sait, qu'elle ne savait point philosopher. Philippe Reynaud, lui, le sait admirablement et nous a donné là un grand livre.